Si on devait imaginer une petite start-up, mais genre une boîte totalement inconnue au bataillon avec juste une poignée de membres, et que cette start-up décidait soudainement de s'attaquer au monopole le plus puissant, le plus structuré et le plus impitoyable de toute l'histoire.
C'est une image assez frappante.
Ouais, et surtout, si cette petite entreprise échoue, bah c'est pas juste un dépôt de bilan. C'est littéralement l'exécution publique pour tout le monde.
Oui, l'image est très juste en fait. Le rapport de force est tellement asymétrique qu'il rend bien complètement absurde.
Claire?
On parle vraiment d'un mouvement minuscule, à peine balbutiant, qui tente de survivre et même de s'étendre en plein cœur de la gigantesque machine qu'est l'Empire gréco-romain.
Exactement. Et pour comprendre comment ils ont bien pu réussir ce tour de force absolu, on va se plonger aujourd'hui dans une source vraiment captivante.
Ah oui, le travail de Craig Kinner.
Tout à fait, les notes de la 20e conférence du docteur Craig Kinner. C'est un expert super reconnu qui analyse en profondeur les chapitres 18 à 20 du livre des Actes. Et la mission de notre exploration, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre les mécanismes réels, comment ce mouvement naissant a pu naviguer dans un véritable champ de mine.
Un champ de mine juridique, spirituel et économique, ouais.
Sans se faire broyer. Bon, décortiquons tout ça. On va commencer par le tout début de cette séquence dans la ville de Corinthe.
D'accord.
C'est vraiment là que se pose la première grande question de survie face à la justice romaine.
Ouais, et en fait, tout va se jouer autour d'une faille juridique. Une faille assez subtile sur une question d'identité.
Vas-y, explique-nous un peu le décor.
Bah, pour bien saisir, Paul, qui est le leader de ce nouveau mouvement, il se trouve à Corinthe. C'est une grande ville commerciale super bouillonnante. Et il vient de provoquer une grosse scission dans la synagogue locale. Donc la communauté juive est complètement fracturée.
Ambiance.
C'est ça. Et ceux qui s'opposent farouchement à lui, ils réalisent vite qu'ils n'ont aucun moyen en interne pour le faire taire. Ils peuvent pas juste l'expulser de la ville.
Du coup, ils font quoi?
Ils décident de faire appel à la grosse machine de l'État romain. Ils traînent Paul devant un gars qui s'appelle Gallion.
Galion, d'accord.
Ouais, c'est le proconsul d'Achaïe et il vient tout juste d'être nommé.
Là, ils formulent une accusation qui semble quand même hyper floue. Ils disent genre, Paul pousse les gens à adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. Mais de quelle loi il parle exactement?
Bah, c'est tout le génie de leur stratégie et en même temps son gros point faible. Ils essayent de prouver que le message de Paul, ce n'est pas du judaïsme.
Ah, ok.
Il faut vraiment comprendre la mentalité romaine de l'époque. Les Romains, ils étaient profondément conservateurs.
Ils aimaient pas le changement.
Surtout en matière de religion. Le judaïsme, même s'il n'était pas techniquement ce qu'on appelle une religio licita,
Une religion légale reconnue par l'État, c'est ça?
exactement. Même sans ce statut strict, le judaïsme bénéficiait d'une immense tolérance, un vrai respect de fait de la part des Romains.
Pourquoi?
Parce que c'était super ancien. Les Romains, ils respectaient tout ce qui avait passé l'épreuve du temps.
D'accord, donc l'objectif des accusateurs à Corinthe, c'est de dire au juge: regardez ce gars, il invente un truc tout neuf, ça n'a plus rien à voir avec notre vieille tradition vénérable.
C'est exactement ça. Et si le juge accepte cet argument, s'il dit que le groupe de Paul est une secte complètement nouvelle et déconnectée du judaïsme,
Le bouclier saute.
ouais, le mouvement perd sa protection instantanément. Ça devient une superstition illégale, une menace pour l'ordre impérial.
Ah, purée, et là c'est la porte ouverte aux accusations de trahison, la maesta, c'est ça?
Tout à fait. C'est la peine de mort, directe.
Mais attends, si cette nouvelle secte provoque des tensions, qu'elle divise les gens et crée de l'agitation dans une immense ville comme Corinthe, pourquoi un gouverneur romain voudrait pas simplement l'écraser direct pour avoir la paix? C'est ce que ferait n'importe quel préfet normal, non?
Bah, c'est une excellente question. En théorie, oui, il aurait pu. Mais Gallion, il analyse le truc totalement différemment.
C'est-à-dire?
L'administration romaine, elle était aussi très pragmatique, voire un peu paresseuse sur les dossiers qui touchaient pas directement aux impôts ou à l'armée.
Genre, la paperasse religieuse, très peu pour eux.
Voilà. Gallion regarde le dossier. Il écoute l'accusation et conclut que c'est pas un problème de droit civil romain. Il n'y a pas de crime de sang.
Ok.
Pour lui, c'est juste une obscure querelle de mots, de noms, de théologie juive. Et la justice romaine permettait traditionnellement aux communautés étrangères de gérer leurs propres affaires internes. Donc il refuse purement et simplement de statuer. Il les renvoie tous.
C'est fou, hein? En fait, pour reprendre notre image du début, c'est un peu comme une sorte de restructuration d'entreprise.
Comment ça?
La société mère, la synagogue, elle essaie de se débarrasser d'une filiale devenue toxique, le groupe de Paul.
Ouais, je vois.
Elle va devant le tribunal de commerce et elle dit « Cette branche n'a plus rien à voir avec nous, retirez-leur notre couverture d'assurance et laissez-les faire faillite. »
C'est ça.
Et le juge répond « ça relève pas de ma juridiction, vos petites histoires de filiales, ça m'intéresse pas. »
Ah ouais, c'est une très bonne métaphore.
Et l'impact de ce non-lieu, il est colossal.
Vraiment.
Ah oui, si on le relie cela à la situation dans son ensemble, cette décision qui a l'air super banale, c'est le point de bascule de l'histoire.
Pourquoi? C'est juste un juge local, non? Sauf que Gallion n'est pas un petit fonctionnaire de quartier. C'est le proconsul de toute la province d'Achaïe.
Ah oui, gros bonnet.
Voilà, son refus d'intervenir, ça crée une jurisprudence majeure. Les autres tribunaux romains vont s'aligner là-dessus jusqu'à l'époque de Néron, genre des années plus tard.
Sérieux, hein?
Ouais. Donc sans le vouloir, par pure indifférence administrative, Rome vient de donner à la secte une couverture légale de fait. Ça va leur permettre de survivre pendant leurs décennies les plus fragiles.
L'indifférence de la bureaucratie comme bouclier providentiel, c'est savoureux quand même.
Totalement.
Et en plus, il y a cette conclusion presque tragicomique dans la source. Elle note qu'un certain Sosthène, un des leaders de la synagogue qui poursuivait Paul...
Oui, le pauvre Sosthène.
Il finit par se faire rouer de coups en plein tribunal. Genre, juste devant le juge. Et Gallien ne lève même pas le petit doigt.
Ouais, alors le texte est un peu ambigu sur qui le frappe exactement.
Ah bon?
Soit c'était une foule de Grecs avec, disons, des penchants antisémites, qui profitaient de la défaite légale des accusateurs.
Sympa.
Soit c'était la communauté juive elle-même, qui punissait son propre leader parce qu'il avait foiré le procès de manière hyper humiliante.
Ah ouais, le double peine. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que ce fameux Sosthène, on le retrouve plus tard dans l'histoire, non?
Tout à fait, il réapparaît associé à Paul pour rédiger une de ses lettres. Il a manifestement fini par changer de camp.
Quel retournement de situation incroyable. Donc, Paul profite de cette immunité temporaire et il reste pas là les bras croisés. Le mouvement quitte Corinthe et s'installe à Éphèse.
Voilà, changement de décor.
Et là, l'arène change du tout au tout. On n'est plus dans des tribunaux avec des magistrats en toge.
Ah non, plus du tout.
On entre de plein pied sur le terrain de l'occultisme, de la magie, le vrai pouvoir spirituel pur et dur.
Éphèse, c'était vraiment l'épicentre mondial de ce genre de pratique à l'époque. Mais avant de parler de magie, il faut regarder comment Paul s'installe.
D'accord.
Le docteur Kinner souligne dans sa conférence que Paul... loue ou emprunte l'école d'un certain Tyrannos.
Tyrannos, comme un tyran.
Ouais, un détail amusant d'ailleurs, ça veut dire « le tyran », donc c'était probablement le petit surnom sympa que ses élèves lui donnaient.
Génial.
Bref, Paul y enseigne tous les jours, mais attention, seulement de 11h du matin à environ 16h.
Et on sait pourquoi ces horaires-là en particulier?
À ton avis?
Parce que ça correspond pile à l'heure de la sieste. En Ionie, apparemment, la vie publique s'arrêtait en fin de matinée à cause de la chaleur écrasante.
Exactement. Ce qui veut dire que Paul, le matin, dès l'aube, il faisait un travail manuel super épuisant.
Genre fabricant de tentes, maroquinerie, ce genre de trucs.
C'est ça. Et ensuite, au lieu de dormir comme tout le monde l'après-midi, il enchaînait en se transformant en philosophe conférencier.
Une éthique de travail franchement hallucinante.
C'est un modèle d'adaptation culturelle, en fait. Il squatte les infrastructures éducatives pendant qu'elles sont vides. Et c'est là, dans ce contexte éphésien, que les histoires d'autorité spirituelle deviennent dingues.
Raconte.
La source mentionne un contraste très instructif. D'un côté, t'as Apollos. C'est un orateur brillant, il connaît super bien les Écritures, mais il n'a reçu que le baptême de Jean-Baptiste.
Ok.
Et pourtant, quand il rejoint le mouvement de Paul, il n'est pas rebaptisé.
Mm-hmm.
Mais d'un autre côté, Paul tombe sur 12 autres disciples. Eux aussi, ils ne connaissaient que le baptême de Jean-Baptiste.
Pareil qu'Apollos, donc.
Sauf que, eux, ils ignoraient carrément l'existence du Saint-Esprit. Et eux, ils doivent être rebaptisés.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une logique presque mécanique derrière tout ça. On pourrait se demander pourquoi Apollos, lui, a droit à un passe-droit.
Ouais.
Puisqu'il a exactement le même background de départ que les 12 autres gars. Kinner explique ça comment?
Il dit que la différence réside dans l'esprit. Apollos était déjà, je cite, « fervent d'esprit ». Il était animé par l'Esprit de Dieu, même s'il lui manquait 2 ou 3 mises à jour théologiques récentes.
Donc son vieux système marchait encore, quoi.
Voilà. Mais les 12 autres, ils n'avaient absolument pas cet esprit. Ils tournaient sur un système d'exploitation complètement obsolète et hors ligne.
Il leur fallait une grosse mise à jour matérielle pour filer la métaphore.
Totalement.
Et cette question fondamentale de « qui possède la vraie autorité ?» va trouver son point culminant avec une histoire complètement rocambolesque.
Ah, les fameux sept fils de Séva.
Oui, ce sont des exorcistes juifs itinérants. Il faut bien comprendre que dans l'Antiquité, la magie, c'était super syncrétique.
C'est-à-dire ?
Bah, c'était un marché ouvert. Si un magicien voyait qu'un de ses concurrents utilisait au nom d'un dieu égyptien ou persan et que ça donnait des résultats...
Il le copiait direct.
Voilà, il l'ajoutait à son propre carnet de sorts, sans pression. Donc, les fils de Séva, ils voient les miracles de dingue que Paul fait au nom de Jésus.
Et ils se disent, jackpot, on va intégrer ce nouveau nom à notre prochaine séance d'exorcisme.
C'est ça, ils voient ça comme une nouvelle incantation secrète à utiliser.
En fait, c'est comme s'ils essayaient de pirater un réseau.
Ouais, c'est exactement comme s'ils essayaient d'utiliser le nom de Jésus comme un mot de passe Wi-Fi volé.
Oh, l'image est parfaite.
Ils débarquent devant un homme possédé. Ils entrent le mot de passe « Jésus prêché par Paul » et ils attendent que la connexion se fasse.
Sauf que... Le système, donc l'entité démoniaque dans ce cas-là, il reconnaît la fraude dans la seconde.
Ouais, l'entité leur répond un truc du genre « Je connais Jésus et je sais très bien qui est Paul, mais vous, vous êtes qui au juste ?»
Le mot de passe est rejeté, erreur 404 et avec un message d'erreur d'une violence inouïe.
C'est clair. C'est le rejet de connexion le plus douloureux de l'histoire. L'homme possédé leur saute dessus, il les tabasse, et il s'enfuit nu et en sang dans la rue.
Purée. Mais cette anecdote, enfin, c'est pas juste un fait divers un peu comique, ça illustre une fracture théologique énorme, non ?
Exactement. Pour les magiciens antiques, connaître le vrai nom d'une puissance, c'est avoir un moyen de coercition sur elle. La formule magique force l'esprit à obéir. À l'inverse, dans le mouvement chrétien, le nom de Jésus n'est pas magique en soi. C'est une pure question d'autorisation, de relation personnelle.
Donc si t'es pas un représentant officiellement autorisé par le maître, utiliser sa signature, ça sert strictement à rien.
Rien du tout. Et cet événement précis, la défaite humiliante des fils de Séva, ça va déclencher un véritable raz-de-marée dans toute la ville d'Éphèse.
Ouais, parce que ce genre de potin, ça circule vite. Et ça provoque ce qu'on pourrait appeler un vrai crash boursier de l'industrie occulte.
Un crash boursier, oui, c'est le mot.
Les gens réalisent d'un coup que leurs vieux grimoires, leurs formules secrètes, les fameuses Ephesia Grammata, c'est devenu obsolète ou impuissant.
Donc ils font quoi ?
Ils commencent à les ramener sur la place publique pour les brûler. D'ailleurs, la source de Kinner explique un truc fascinant sur la magie antique.
Ah oui, sur le secret, c'est ça ?
Ouais, le simple fait de lire à voix haute ou de divulguer un sortilège secret, ça annulait instantanément son pouvoir. Le pouvoir de la magie reposait entièrement sur le secret.
D'accord, je vois.
Donc en les dévoilant à tout le monde et en les brûlant, ils détruisaient littéralement leur propre propriété intellectuelle.
Et la valeur financière de tout ça, elle est faramineuse. Elle correspondait grosso modo à une journée entière de salaire pour un ouvrier agricole de l'époque.
50 000 jours de salaire.
Ouais. L'équivalent de 50 000 jours de travail qui partent en fumée en une seule journée. C'est une fortune colossale qui rayait de la carte.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la ville ? Parce que bon, on le sait bien, quand on détruit 50 000 jours de salaire d'une économie locale...
L'économie réagit.
Exactement. Elle reste pas passive. Le spirituel finit inévitablement par frapper le portefeuille. Et c'est là qu'un certain Démétrios entre en scène.
Démétrios, l'artisan orfèvre. Absolument. Parce qu'Éphèse, au-delà de ses magiciens, c'était surtout mondialement connu pour son immense temple dédié à Artémis.
L'une des sept merveilles du monde antique, carrément.
C'est ça. Et attention, c'était pas une petite chapelle de quartier. Le bâtiment, il mesurait 130 mètres de long sur 70 mètres de large.
Waouh !
Pour te donner une idée, c'est 4 fois la taille du célèbre Parthénon d'Athènes.
Ah ouais, c'est un mastodonte !
Une merveille architecturale incroyable et surtout le cœur économique battant de la ville grâce au tourisme religieux. Et notre ami Démétrios, lui, il fabriquait des sanctuaires miniatures d'Artémis en argent.
Le commerce de luxe des souvenirs, quoi. Très lucratif.
Voilà.
Mais du coup, Démétrios, il sent que le vent tourne. Paul passe son temps à prêcher un monothéisme radical en répétant partout que les dieux fabriqués par la main de l'homme, c'est pas des vrais dieux.
Et ça, pour les affaires.
Forcément, ça fait chiter les ventes des petites statuettes en argent. Donc Démétrios y rassemble tous ses collègues orfèvres et il leur tient un discours, mais au relent super populiste. Il leur dit pas juste « les gars, on perd de l'argent ». Il mélange hyper habilement l'argument économique avec le nationalisme local.
Ce qui est fascinant ici, c'est cette mécanique populiste. Elle n'a pas pris une ride, c'est fou.
C'est exactement la même aujourd'hui.
Démétrios joue à fond sur la fierté civique. Il martèle que la grande déesse Artémis, qui est vénérée par toute l'Asie et le monde entier, elle risque de perdre son prestige à cause de Paul.
D'ailleurs, au passage, le docteur Kepper fait une précision assez marrante sur cette fameuse Artémis d'Éphèse, non?
Ah oui, la blague du dermatologue.
Vas-y, raconte.
En fait, contrairement à une idée super répandue qui vient des statues d'Artémis pleines de protubérances bizarres sur le torse...
Oui, on a souvent dit que c'était plein de seins une déesse de la fertilité.
Eh bien non, c'était pas une déesse de la fertilité. Elle restait la Vierge Chasseur. Et Kinner plaisante en disant que, vu la tête des protubérances, elle avait peut-être juste besoin d'un très bon dermatologue.
Magnifique.
Plus sérieusement, toucher à Artémis, c'était toucher à l'identité même d'Éphèse. Donc la rhétorique enflammée de Démétrios, ça met le feu aux poudres. Très vite, la situation dégénère en émeute urbaine massive.
Une émeute qui finit par se déplacer vers le grand théâtre de la ville. Et là encore, les chiffres de la source donnent le vertige.
Mmh.
Ce théâtre, il pouvait accueillir plus de 20 000 personnes.
20 000, ouais.
Imagine juste un peu l'acoustique d'un amphithéâtre en pierre de cette taille, bondé à craquer, avec une foule complètement enragée.
C'est vite assourdissant. Surtout que la source précise un détail super réaliste. La grosse majorité des gens présents dans le théâtre, ils savaient même pas pourquoi ils étaient là.
L'effet mouton classique.
Ils ont juste suivi le mouvement de foule en hurlant. Et pendant 2 heures d'affilée, ils scandent sans aucune interruption « Grande est l'Artémis des Éphésiens ».
2 heures, c'est terrifiant. Paul veut carrément y aller pour parler à la foule, mais ses amis l'empêchent de faire cette folie.
Ses amis, oui, et particulièrement certains Asiarques.
C'est qui, eux?
Les Asiarques, c'étaient des membres de l'élite de la province. Des figures politiques de très haut rang, souvent des parrains des arts ou de l'éducation locale.
Ah, donc Paul avait des sacrés appuis.
Le fait qu'il ait des amis parmi eux, ça montre qu'il était vraiment respecté dans certains cercles intellectuels de la ville. Peut-être qu'il le voyait comme un philosophe digne d'intérêt.
Ouais. Enfin, face à 20 000 personnes en furie qui hurlent, la philosophie, ça pèse plus bien lourd.
C'est clair. Au final, c'est le greffier de la ville, le grammateus, le plus haut fonctionnaire municipal qui doit intervenir pour calmer tout le monde.
Et on est bien d'accord qu'il ne le fait pas par sympathie pour le mouvement de Paul.
Ah non, pas du tout. Il le fait par pure panique géopolitique.
Il a peur de Rome, c'est ça?
Totalement. Éphèse jouissait d'un statut super convoité, celui de ville libre.
Mmh.
Ça veut dire qu'elle avait ses propres tribunaux et une vraie autonomie fiscale. Mais le quartier général romain de toute la province, il était situé juste là, dans la ville.
Ah ouais, sous leur nez?
Si les autorités romaines voyaient qu'Éphèse était incapable de maintenir l'ordre public chez elle...
L'Empire n'éviterait pas une seconde à envoyer l'armée.
Exactement. Révocation du statut de ville libre, taxe punitive immédiate, émise sous loi martiale.
La cata totale.
Donc le greffier prend la parole et dit un truc du style « Bon, calmez-vous. Démétrios, si t'as un problème commercial avec ces gars... » Les tribunaux sont ouverts.
Ouais.
Mais là, ce que vous faites avec vos cris, c'est une assemblée illégale. Et c'est Rome qui va nous tomber dessus pour sédition.
Et bizarrement, l'argument de la répression fiscale romaine s'accame la foule directe.
Comme par magie.
On passe donc d'un problème théologique à un effondrement d'industrie qui mène à une émeute monstre qui est finalement désamorcée par la menace des impôts romains.
La boucle est bouclée.
C'est fascinant. Mais après cette séquence d'une intensité folle, avec ses foules de 20 000 personnes, sa politique urbaine et ses enjeux économiques de dingue...
Mmh.
Le document du docteur Kinner marque une vraie rupture de ton. On quitte complètement l'échelle macro pour se recentrer sur l'humain.
Sur l'intime, ouais.
Paul sait qu'il doit quitter la région. Il entame une sorte de tournée d'adieu. Et la source s'arrête d'abord sur l'étape de Troas.
Troas, c'est une étape de transition, mais avec une histoire mémorable. Paul organise une réunion d'adieu un dimanche soir.
D'accord.
Comme il part le lendemain à l'aube, et qu'il sait qu'il ne les verra probablement jamais, il a énormément de choses à leur transmettre.
Tu m'étonnes.
Donc il prêche. Il parle, jusqu'à minuit passé. Et c'est là qu'intervient le fameux incident du Tiche.
Ah, je dois avouer, pour ceux qui nous écoutent, que Tiche, c'est clairement mon personnage préféré de cette session.
Ah bon?
Bah oui, c'est l'ancêtre du pauvre étudiant épuisé qui essaye de survivre à un cours magistral qui n'en finit plus.
C'est un peu ça. La source explique d'ailleurs super bien les conditions.
Ouais, la pièce était pleine de lampes à huile, non?
C'est ça. Des dizaines de lampes à huile, ce qui devait créer une chaleur étouffante avec une fumée épaisse. Sans parler de la fatigue écrasante au milieu de la nuit.
Et le pauvre Tiche, il s'assoit sur le rebord d'une grande fenêtre ouverte au 3e étage.
Mauvaise idée.
Grave. Il s'endort profondément, il bascule dans le vide et il se tue sur le coup. C'est une tragédie absolue qui interrompt brutalement la réunion de Paul.
Mais la réaction de Paul est juste stupéfiante. Il descend en trombe. Il se jette sur le corps du jeune homme et il le ressuscite.
Rien que ça.
C'est une scène qui fait... très clairement écho au miracle des grands prophètes de l'Ancien Testament, comme Élie ou Élisée.
Mmh.
Mais le plus dingue, c'est qu'au lieu de s'arrêter là-dessus, sur ce climax extraordinaire, la réunion reprend.
Sérieux?
Ouais. Paul remonte tranquillement à l'étage, il dîne avec eux,
et il continue son discours jusqu'au lever du soleil.
C'est le move ultime du professeur passionné. Il ranime son étudiant tombé dans le coma juste pour pouvoir terminer sa conclusion.
C'est une façon de voir les choses.
Plus sérieusement, ça montre une urgence incroyable dans son esprit. Chaque minute compte avant son départ. Ce qui nous amène à la toute dernière grande étape, à Milette.
Milette, oui.
Paul demande aux anciens d'Éphèse de venir le retrouver là-bas. Il évite délibérément de passer par Éphèse. Pourquoi il fait un tel détour ?
Il y a une double raison à ça. D'abord, le temps presse, parce qu'il veut absolument être à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte.
Ok.
Mais la source souligne aussi un point culturel crucial de l'Antiquité, les règles de l'hospitalité.
Ah, ça prenait du temps.
Énormément. Si Paul mettait un orteil à Éphèse, où il avait vécu près de 3 ans, il aurait été socialement obligé de visiter chaque maison, de faire des dizaines de repas d'adieu.
Sinon, c'était l'offense suprême.
Exactement. Il n'avait tout simplement pas le temps pour toutes ses obligations sociales. Sans oublier qu'après l'émeute géante des orfèvres...
Ouais, valait peut-être mieux pas se montrer en ville.
C'était plus prudent politiquement, oui. Donc, il convoque les leaders à Milet pour un ultime discours.
Et c'est un discours d'une solennité absolue. Il utilise des mots très lourds de sens pour définir leur futur rôle.
Oui.
Il les appelle des épiscopoi, des surveillants. C'est d'ailleurs le mot qui donnera plus tard évêque. Et il les appelle aussi des bergers, des poimènes.
Il utilise beaucoup l'imagerie du troupeau qu'il faut protéger. D'ailleurs, il les met sérieusement en garde.
Contre quoi ?
Il leur dit qu'après son départ, des loups redoutables vont s'introduire parmi eux. Et par loups, il désigne des faux enseignants.
Ah, les menaces internes.
Il a pleinement conscience que les pires dangers à venir, ce ne seront pas les persécutions des légions romaines, mais bien les divisions de l'intérieur.
D'accord.
Et cela soulève une question importante sur la conception du leadership à cette époque.
C'est-à-dire ?
On s'imagine très souvent Paul comme un intellectuel austère, tu vois, le théologien strict qui rédige des lettres dogmatiques super arides.
Ouais, un profil très froid, très clérical.
Voilà. Mais le texte dévoile une vulnérabilité extrême chez lui. Paul sait très bien vers quoi il se dirige. Il avoue que le Saint-Esprit l'avertit de ville en ville que la prison et la souffrance l'attendent à Jérusalem.
Il va vers la mort, en gros.
Et il y fait face avec une résolution totale, en disant ouvertement que sa propre vie ne compte pas.
Et la réaction des anciens face à ce discours, elle est bouleversante. La source décrit une vraie scène de deuil collectif.
Mmh.
Ces hommes, ils éclatent en sanglots, ils se jettent au cou de Paul et l'embrassent. Il faut préciser un truc important, comme le note le docteur Kinner.
Oui, sur la nature du baiser.
C'est ça, il ne s'agit pas juste d'une petite tape dans le dos viril, c'est un baiser sur les lèvres.
C'était une marque courante d'affection profonde, de respect absolu dans la culture méditerranéenne antique. Surtout entre les membres d'une famille proche ou entre un maître et ses disciples.
Ouais, mais il faut s'imaginer la scène. Ce sont des hommes adultes, des leaders communautaires censés être les piliers inébranlables de leur société.
C'est vrai.
Dans cette culture gréco-romaine où le stoïcisme et le contrôle des émotions sont hyper valorisés chez les hommes de pouvoir.
Ils s'effondrent en larmes sur le port de Milet.
Exactement. Et il pleure particulièrement parce qu'il a prononcé cette phrase terrible « Ils ne reverront plus son visage ».
Le contraste avec l'image un peu aseptisée ou très corporate qu'on se fait souvent du leadership religieux ou d'entreprise aujourd'hui, c'est total.
C'est viscéral, ouais.
Absolument viscéral. Et d'ailleurs, si l'on fait la synthèse de tout ce qu'on a vu au fil de cette source aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux la résilience hors norme de ces premières communautés.
Qu'est-ce que tu retiens, toi, principalement ?
D'un côté, il y a une intelligence stratégique évidente, savoir profiter d'une faille dans la lourde bureaucratie romaine à Corinthe pour obtenir une couverture légale de faits et brillants.
Mmh.
Et puis, il y a le courage brut, oser affronter de front des systèmes de croyances hyper enracinés, comme la magie à Éphèse.
Au risque de tout perdre.
Exactement. Et être capable d'encaisser les chocs économiques massifs et les émeutes populistes que provoquent inévitablement les changements profonds de comportements sociétaux.
Et au centre de tout ce tourbillon purement macroscopique, il y a ce ciment profondément humain.
L'investissement émotionnel.
Ouais. L'engagement viscéral, l'affection et la vulnérabilité de leaders qui sont prêts à tout sacrifier pour transmettre leur message.
C'est ce qui fait tenir l'édifice, au final.
Et pour ceux qui nous écoutent, il est quand même super frappant de voir à quel point les schémas de réaction de la société restent exactement les mêmes à travers les siècles.
Ah oui, c'est universel.
Quand une idée vraiment radicale ou qu'une technologie de rupture débarque sur le marché de nos jours, on observe exactement la même séquence.
C'est-à-dire ?
D'abord, une grosse panique législative pour savoir dans quelle case légale on va bien pouvoir classer ce truc nouveau, un peu comme Galion avec sa jurisprudence.
Tout à fait.
Ensuite, l'effondrement des anciens modèles économiques qui paniquent, qui s'accrochent à leurs privilèges et tentent d'agiter les foules, un peu comme notre artisan Démétrios avec ses petites statuettes en argent.
Les époques changent, mais l'inertie des systèmes humains, elle, bouge pas d'un millimètre.
Exactement. Mais bon, il y a quand même une pensée qui s'impose à la fin de cette étape du voyage.
Laquelle ?
Paul laisse derrière lui des communautés qui jusque-là s'appuyaient totalement sur sa présence charismatique, sur son audace physique face aux foules en colère et sur ses liens affectifs très personnels avec les gens.
Il était le pilier central.
Alors, la vraie question qu'on peut se poser... Que se passe-t-il vraiment le jour où cette toute première génération fondatrice meurt ou disparaît ?
Ah, la question de la transition.
Ouais. Comment un mouvement d'une telle intensité émotionnelle et spirituelle parvient-il à survivre à sa propre institutionnalisation ?
C'est le grand défi de toute révolution.
Exactement. Quand il ne reste plus que des textes écrits, des règles et des successeurs qui n'ont jamais connu le frisson des tout débuts, comment empêcher la flamme radicale des origines de se transformer en une simple bureaucratie religieuse de plus ?
C'est une question immense.
Et c'est sur cette réflexion que je propose à chacun de méditer jusqu'à notre prochaine exploration